bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Original, soyez bienvenus avec Léna Cadeau-Boudadi, Daniel Morin, Albert Algout, Alexis Le Rossignol, Frédéric Sylvis, et nos invités Romain Gavras et Karim Lecou. Ravi de vous accueillir. Alors, on n'a pas pu vous accueillir pour la sortie de ce film Le Monde est à toi, mais on vous accueille pour la sortie du DVD. Il faut dire que le film est sorti l'été et que nous, on est un peu en vacances.
Nous aussi, on était en vacances.
C'est ça.
Et c'est un film d'été, il
ouais,
y a des piscines.
Il y a des blockbusters un peu américains
mais
qui sortent.
Mais c'est un blockbuster.
Non, américain, je veux dire. Vous avez la conscience. C'est un film américain, ouais.
Non, c'est un film français, mais c'est un blockbuster français.
C'est ça, c'est ça. Et c'est un très bon film. Félicitations, on est ravis. Merci. En tout cas, ce DVD avec sort avec évidemment Karim Leclou qui est notre invité et qui est nommé au César en plus pour ce film.
Pas nommé, prénominé.
C'est quoi les prénominés?
Ça veut dire qu'on n'est pas nommé en fait. On est dans le prêt.
Voilà. Mais c'est Arbenagui qui décide.
Il y a combien de prénominés pour finir à quoi?
79.
On est 400. C'est pas mal, c'est pas vrai. Il y a Sofiane Kamès qui est avec moi aussi dans le film et qui joue Poutine.
Qui joue Poutine, qui est génial.
Voilà. Et qui est aussi un acteur génial. Prénommé.
Et qui est prénommé ou prénominé.
Et au niveau de votre amitié, ça va?
De notre amitié?
Avec
Bah ouais.
Oui.
J'aime bien ce genre de questions, c'est drôle.
Attends, on est en compétition.
Non, parce que comme ouais, ici, c'est un mot que l'on ne connaît pas, l'amitié, non, donc on demande aux autres, c'est quoi? Il y a dans le film Vincent Cassel, Isabelle Adjani, et Philippe Catherine, François Damiens, qui est juste dingue, mais je crois qu'il est juste dingue dans la vie, mais en plus au cinéma. Et on va parler de ce DVD et du monde est à toi. Mais d'abord des questions qui vous concernent, Romain et Karim. On va voir si les personnes autour de cette table ont travaillé un tout petit peu leur dossier. J'aime bien Karim regarde Romain en disant « T'es sûr qu'on devait venir ici ?»
Ouais, ouais. Mais il n'y a rien d'embarrassant.
Pas pour l'instant en tout cas. Romain Gavras a réalisé de nombreuses publicités, mais pour quelle corporation, entre guillemets, refuse-t-il ?
La police ?
Non.
Les pompes funèbres ?
La poste ?
Le tabac ?
Non.
L'alcool ?
Une corporation ?
Les voyages ?
Il y a une catégorie où il dit...
Banque.
Exactement.
Banque, ouais.
Je
banque.
Veux pas ouais. faire de pub pour les banques. Jamais de ma vie, vous avez dit, je ferai de pub pour les banques.
Jusqu'au moment où j'aurais besoin vraiment beaucoup d'argent.
Ah, voilà.
Non.
Voilà,
non, c'est on s'invente une petite limite quand on fait de la réclame. Et du coup, les banques et les sociétés pétrolières, c'est un peu compliqué.
Non, mais vous vous rendez compte, si vous devez analyser.
Et l'armée aussi, c'est compliqué.
L'armée, elle peut être.
Non, mais l'armée, on m'a déjà proposé des porte-avions, des F-16 et tout ça, et c'est compliqué de faire un truc cool qui dit aux gamins, allez, venez à la guerre, c'est cool.
Alors, c'est pas ça. L'armée, elle peut permettre de garder la paix, surtout, et de pas faire la guerre.
Oui, c'est un point de vue.
C'est les fabricants d'armes qui sont...
C'est les Égyptiens qui parlent.
Non, c'est pas ça. Non,
mais armez-vous pour garder la paix.
La question, c'est que n'importe quel... Même des bonbecs, si on vous demande de faire un pub pour les bonbecs, vous n'avez quand même pas analysé le bonbon pour savoir si...
Ah non, pas du tout.
Il y a du E124 colorant qui est pas bon pour la santé.
Non, pas du tout. Je regarde les bonbons, je regarde la description, les ingrédients. Non, c'est juste quelques petits préceptes pour me permettre de
dormir. Un minimum de principe, on va dire. D'accord.
Mais un minimum.
Un minimum. Que fait Karim Leclou pendant son temps libre? C'est une réponse qu'il a faite dans une interview.
Rien, il dort, il glande.
Non.
Merci.
Je suis pas.
Vélo.
C'est ça. Ouais.
Quelle
c'est...
belle vision.
Ouais. Non, c'est... Moi, c'est ce que je
c'est
fais.
C'est ce que je t'inspire.
Moi, c'est ce que je fais personnellement.
C'est ce que je fais personnellement.
Quand même, Leclou. Donc, on pourrait être pareil.
Mais on n'est pas loin.
De la peinture.
De la boxe.
Non.
Qu'est-ce que tu as dit, Leïla?
Il frappe des enfants.
Rien.
Non.
Il vole à la tire.
Non.
Jeux vidéo.
Non.
Du hamac.
Non.
La sieste.
Ouais.
Du kung-fu.
Du yoga, ashtanga.
On va dire que c'est une réponse pleine qu'il a faite dans une interview, une réponse qui est à la fois basique, efficace.
Moi, je sais.
Et bois. Et beaucoup de dérision. Quand
je
on
ne
la fin,
réponds
on dit,
pas aux questions.
Et, alors, c'est pas loin.
Je pense que j'aime pas les interviews. Pas.
Vous faites quoi pendant votre temps libre?
Je vous réponds à des questions.
Des
non.
c'est il attend.
Non. Ah, vous trouverez pas.
Non.
Non. Romain, vous avez une idée?
Il regarde le foot.
Non.
Ah.
Non. Vous avez dit en interview, je vais faire mes courses.
Ouais,
un peu pour vous moquer de la question de vous faites quoi pour vos temps libres, j'imagine, c'est ça?
Non, c'est très premier degré. Non,
en fait, Nagui, il y a des gens qui font leurs courses eux-mêmes.
Oui,
c'est
vraiment très premier degré.
Si pendant tout ton temps libre, tu fais des courses, t'as un gros budget
moi,
course.
Moi, je fais ça aussi.
C'est vrai?
Putain, je fais partie de la catégorie des gens bizarres.
Alors comment le truc, la réponse simple est devenue un truc mystérieux.
Il y a un second degré.
À 12 ans, Romain Gavras rêvait de devenir
tueur,
prêtre.
Qui a dit tueur?
Je sais pas.
J'ai entendu tueur. Moi. C'est toi? Ouais. C'est pas loin.
Espion.
Animateur
télé. Agent secret.
Cambrioleur, un truc un peu d'action comme ça.
T'es obligé de tripoter les fesses quand tu...
Mais je ne tripote les fesses de personne, enfin.
C'est bien, c'est bien ce qu'on te reproche.
Oui, c'est ça.
Non.
C'est dans ton contrat.
Non, mais partez sur tueur.
Agent secret.
Espion, agent, tueur à gage.
Agent double.
Grosse, dans une grosse dimension.
Chef des services.
Sniper.
Non, non.
Donald Trump.
Travaille pour la CIA.
Président des États-Unis.
Non, alors je vais accepter Donald Trump parce que vous rêviez à 12 ans d'être dictateur.
Ah. Ouais, parce qu'en fait, je voulais être président à 9 ans, puis j'ai compris qu'on n'avait pas vraiment de pouvoir en étant président. Du coup, dictateur, ça semblait être une bonne option. Et puis j'ai revu mes
films
espoirs
de papa.
À la baisse.
Non, j'ai revu les films de papa. Ouais, voilà,
et mes espoirs à la baisse. Et du coup, je suis devenu réalisateur.
Ouais, c'est pas trop frustrant.
Ce qui est une forme.
Un petit peu.
Ce que j'allais dire, c'est pas une forme de dictateur. Quand on est réalisateur, on n'est pas un peu le dieu sur le plateau et on décide tout.
Non, il faut décider tout parce que il n'y a pas la place pour la démocratie sur un plateau. En vrai, c'est-à-dire que si tout le monde décide,
qui veut tourner ça, c'est pas possible.
Par contre, on a des conseillers, on a des généraux, on écoute.
On délègue.
On délègue un peu et on écoute.
Même question pour Karim Leclou. Lorsqu'il était enfant, il rêvait, on a un peu évoqué ça, mais il rêvait de faire quoi?
Jardinier.
Non.
Ses courses.
Non. Il voulait être champion.
Du monde.
Oui, mais de quoi?
Football.
Mais oui. Mais oui. Champion de foot, vous jouiez bien au foot?
Non. C'est un drame personnel.
C'est vrai.
Ouais, vraiment, je le vis très mal, mais j'ai toujours de l'espoir d'être sélectionné. On sait jamais, Didier Deschamps, des fois. Dans... Ouais.
On va le recevoir dans l'émission. On va lui poser la question s'il peut vous.
Proposer.
À quel poste vous aimeriez jouer?
Ouais, si possible, avant-centre.
Il y a de la place.
Ouais. À la place de. Plutôt Griezmann, plutôt Mbappé, plutôt.
Ouais, Mbappé, parce qu'en termes de vitesse, je pense que je peux le challenger.
Je pense aussi.
Et puis Mbappé, il est un peu en fin de carrière. Donc,
complètement.
C'est bon, il a de l'espoir.
En fin de course.
Il vient d'avoir 20 ans.
Il a eu 20 ans hier.
Voilà.
Pour Le Monde est à toi, le film donc, dont nous allons parler. Pourquoi les acteurs avaient interdiction d'aller sur la plage pendant le tournage
pour
en Espagne?
Pour ne pas bronzer, pour être accord. Pour être accord.
Exactement, pour les problèmes de raccord et de maquillage, c'est ça?
Et parce que aussi, on a tourné à Benidorm, qui est une ville en Espagne, où il y a beaucoup d'Anglais qui boivent tout le temps, et il y avait des bagarres tout le temps sur la plage.
Donc ça, vous les avez filmés, parce qu'elles sont dans le film.
On les a filmés aussi, voilà.
Ça, c'est dans le film. Karim Leclou a tout de suite accepté le scénario, avant même de savoir que dans le film, il y avait quelque chose de particulier.
Isabelle Adjani.
Exactement. Et Vincent Cassel, vous ignoriez le casting, en fait?
On en avait parlé, mais je savais pas s'il y avait les accords de Isabelle Adjani, en tout cas, enfin Vincent, je savais qu'il y avait l'accord, mais c'est vrai que Isabelle Adjani, puis le travail de Romain.
Avoir Isabelle Adjani en maman, Vincent Cassel, dans une espèce de rôle de débile à côté de vous dans la bagnole, il est tellement drôle d'ailleurs dans le non-sens le plus total de la loose. C'est impressionnant quand on est comédien où on se dit, on fait le même métier, quelle que soit la carrière, le parcours des uns et des autres. On va partager les dialogues et les scènes, point.
Ouais, c'est parce qu'ils sont très simples, c'était très cool de jouer avec eux, il n'y avait pas du tout de posture, et heureusement, sinon...
Non mais avant, on peut marner, on peut se dire aussi comment ça va se passer avant de les rencontrer.
Ouais, non, j'ai pas eu trop le temps de me poser 50 questions.
C'est courses.
Je faisais mes courses, voilà, tu vois, c'est vrai.
Le Monde est à toi, et j'ai eu le sentiment de voir un film, un pulp fiction à la française, ouais, c'est-à-dire il y a beaucoup de vannes, beaucoup d'humour, beaucoup de rythme, beaucoup d'action, et puis en même temps un vrai point de vue.
Bah, l'idée c'était moi j'aime bien les films qui mélangent un peu les tonalités, c'est-à-dire qu'on peut rire, être ému, être dans la tension, être dans l'action, et du coup c'était un peu ça l'idée, c'était de varier un petit peu les plaisirs et d'être un petit peu tout le temps sur la limite de est-ce qu'on peut rire, est-ce qu'on doit être tendu, est-ce qu'on doit être ému, et voilà, de naviguer un petit peu dans ce monde-là. Avec des...
Comme d'une manière un tout petit peu comme ça, lancinante, presque comme un supplice chinois, cette musique est très présente dans le film. Puis d'un coup...
C'est génial.
L'accident, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah non, non, c'est pas un accident.
C'est génial.
Le film ouvre sur Sardou, finit ouais. sur Balavoine.
C'est ça.
Moi, la chanson de Sardou du début, qui était une chanson qui était écrite pour Johnny Hallyday, c'est une chanson que j'adore, Le Phénix, mais que j'adore sincèrement. C'est-à-dire que c'est même pas.
Il n'y a pas de second degré.
Non, non, j'adore cette chanson et je trouve que d'ouvrir sur un personnage, sur un film ou avec quelque chose de très très musical et très grandiloquent, je trouvais ça intéressant avec des paroles qui parlent du sang, de la ouais. terre et de la vengeance. Voilà, donc il y avait quelque chose comme ça sur l'ouverture du film, mais c'est comme dans tous les films, il y a un arc dans le personnage. On commence sur Sardou et on finit sur Balavoine.
Ouais, parce qu'il y a un décalage avec le personnage que vous incarnez, Karim Leclou, parce que on se dit que comme le phénix, il va se refaire à chaque fois et va réussir à s'en sortir, mais c'est un tendre finalement avec une mère un peu psychopathe, en gros dominée par une mère qui manigance toujours des choses dans son dos. Donc vous êtes une sorte de phénix, oui, mais un phénix tendre.
Bah au départ, je suis plus un hibou. Ouais. Et je veux me transformer. Voilà. En vrai, je suis plus un hibou au départ. En vrai, je suis pas un phénix au tout départ. Et voilà.
Vous refaites à chaque
et
fois.
Je me refais, voilà. Ouais. Et progressivement, j'arrive au phénix. Il y a une transformation tout au long du film. Non, mais c'est vrai.
Le début du hibou, c'est très bon.
Et ouais. Maman, elle écoute.
Il y a du monde chez mademoiselle. C'est le cocktail.
Ça, c'est ce que maman écoute, mais la manière dont, dont son fils ensuite se comporte, c'est plus proche de.
Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Moi,
c'est drôle parce que vous servez, des textes, vous servez des textes, des chansons comme une vanne. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille au-delà de, évidemment du document Booba Caris, qui est un duo qui ne se reproduira sans doute plus, en tout cas devant un micro.
C'est dommage.
C'est une réponse faite à des voyous qui découvrent une tonne de cam en disant mais qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille. C'est vraiment ça.
Exactement. Toutes les chansons dans le film, et que ce soit Sardou, que ce soit Balavoine, ou que ce soit Booba, racontent un peu les personnages du film. Ouais. C'est-à-dire que au-delà même de la vanne, il y a quelque chose qui raconte chaque personnage par la musique et qui raconte un peu l'histoire. C'est-à-dire l'histoire progresse avec la musique aussi.
Il y a une pure bande-son quand même.
Ah ouais, on s'est fait plaisir. Mais c'est pour ça que la réclame, la pub, ça sert à ça. C'est-à-dire que le budget musique... Le budget
Romain.
Romain. On n'est pas dans les années 90.
Mais vous êtes...
Les trois Suisses.
Non mais du coup en fait ça permet à ça. C'est-à-dire que le budget de la bande-son était bien au-dessus du budget du film. Le fait de faire de la pub permet quand on est en salle de montage de dire au producteur on va faire de la réclame derrière et comme ça on pourra se payer Balavoine.
Non, c'est une vanne.
Non, c'est vrai.
Mais quand vous dites c'est cher, c'est-à-dire que chaque morceau il faut le négocier comme un guest.
Ouais, c'est-à-dire que
ça devient un personnage quoi du film.
Ça devient un personnage du film, la musique devient un personnage à partir du film.
Beaucoup plus, je crois.
Beaucoup plus qu'un cachet d'acteur.
Beaucoup plus.
She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight.
C'est Oulaya Amamra qui chante, hein, c'est ça?
Exactement.
C'est cette version en karaoké de Toto.
Qui est
aussi l'une des bascules qu'il y a dans le film, puisqu'elle va infiltrer une bande de voyous en faisant ce karaoké. L'histoire est totalement déjantée, et pourtant elle est extrêmement structurée. Donc vous êtes parti d'un fil conducteur en disant on va faire simple, basique, autour de ça vous avez étoffé l'histoire.
Ouais, exactement, c'était l'idée de partir d'une architecture simple de film de voyous, c'est-à-dire un mec qui veut faire un dernier coup pour se faire une place au vert, en gros.
Et quelle place au vert, voilà. Il veut être quand même distributeur de Mister Freeze au Maghreb. C'est quand même magique comme ambition.
Il veut être honnête.
Ouais. Et du coup, c'est un petit peu de prendre tous les archétypes de films de voyous et de les déconstruire. Le méchant dans le film, c'est sa maman. Donc l'antagoniste principal, il veut pas avoir des villas en or et des jet skis. Il veut avoir un petit pavillon avec une petite piscine et être le directeur de Mister Freeze au Maghreb. Donc il a des rêves à hauteur humaine, et c'est ça qu'on trouvait touchant dans le personnage, c'est-à-dire qu'il a des problèmes de maman, et il a des problèmes de mec qui veut avoir une vie normale, et pas une vie, voilà, encore une fois, avec des jet skis en or.
Et il est entouré de tous les gangs et de tonnes de voyous, et déchiré, mais comme un môme qui se pose des questions vis-à-vis de sa mère, comme un môme qui se pose des questions vis-à-vis de son pote, qui doute de tout, qui est amoureux et qui est prêt à tout pardonner à sa fiancée, même les pires crasses qu'elle peut lui faire, y compris lui demander de l'argent.
Ouais, c'est bien résumé.
Non mais
c'est bien résumé.
Vous êtes dépassé.
Ouais, et puis ça, ce qui était intéressant, c'était justement de développer un personnage avec toutes ces caractéristiques humaines, souvent qui sont parfois ignorées des fois dans le film de gangster, où c'est que des archétypes. Et là, je trouvais que c'était profondément humain. D'ailleurs, tous les personnages qui l'entourent, ils sont tous fragiles. Et mais je sais pas, je me suis reconnu dans le scénario, dans ma fragilité de vie.
Et puis alors, mais vous ondulez tellement bien votre corps.
Et ça, c'est aussi une chanson qui illustre le personnage d'Isabelle Adjani.
Exactement.
Cette mère qui fait comme elle peut. En tout cas, son amour, elle le donne ainsi à son fils. Alors que c'est peut-être pas l'amour idéal, mais il y en a quand même, quoi.
Ouais, il y en a beaucoup. Peut-être trop.
Peut-être trop. Ouais, c'est vrai.
Enfin, elle est assez particulière, cette mère. Elle a des photos d'elle.
Ah oui, elle a des photos d'elle et une toute petite photo de son fils.
C'est honnête.
Mais ça, j'ai déjà vu ça chez des gens.
Allez dans le bureau de Nagui. Vous allez voir.
Il y a des photos d'Adjani aussi partout. Non, mais c'est tellement drôle. C'est-à-dire que vous êtes allé chercher la vanne même dans le détail.
Bah ouais,
de l'accessoirisation. Et je suis sûr qu'il y a plein de vannes qu'on voit pas. Il faudrait revoir le film plusieurs fois.
Il y en a beaucoup. Et
c'est
pratique
qu'il y a un DVD qui vient de sortir.
Ouais, exactement. Exactement. Et même dans les costumes, c'est-à-dire dans les choix des costumes qu'on a fait avec Isabelle, c'était un de nos grands jeux d'aller chez Versace, chez Gucci, trouver le bon foulard, trouver le... Et ça, c'était une des premières connexions qui est apparue avec Isabelle, de créer le personnage presque par l'accessoire et par le détail, en fait.
En tout cas, c'est un vrai spectacle, déjà. Ouais. C'est un vrai film de gangster, mais avec beaucoup de second degré, beaucoup de
avec les
de
codes
vannes.
Revisités aussi, c'est ça qui est intéressant. C'est comment vous jouez avec ça.
Ouais, c'est pour ça que je pensais à du Tarantino, qui joue beaucoup avec ce côté gun et fun, quoi. C'est vraiment les...
Avec Dante, il y a la grosse référence du film de gangster, puisque c'est un peu la maxime d'Al Pacino dans Scarface.
Oui, exactement. C'est un peu la maxime de tous les voyous, c'est-à-dire ils veulent le monde, et lui, il veut pas ça, lui, il veut un petit pavillon et une petite vie tranquille. Et c'était un peu ce qu'on se disait avec Karim, son personnage, c'est un mec normal qui essaye de s'échapper d'un film de voyous, en fait, pendant tout le film.
Je veux tuer,
voilà.
Pour dessaper ta raclée, Igo, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis, c'est bloqué à bombage, je fais bicrap dans l'escalier. Président, dans le hall j'ai vu Lian clivoter blanc. Onga, 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 ouais. Monga, 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 j'serre.
Le monde ou rien, ça c'est PNL. Le monde est à toi, ça c'est le titre du film de Romain Gavras, qui est un vrai bonheur de film de gangster et de pure vanne, et puis surtout tellement bien interprété.
Et un Sofiane Kames qui, moi, m'impressionne, qui incarne ce Poutine, ce chef de, enfin, ce grand dealer complètement fou.
Ce grand fumeur.
Ouais, qui fait penser à des personnages de films américains, une sorte de mégalomanie incroyable, complètement déchiré du matin au soir, et qui en même temps a une tendresse terrible pour son chien, enfin une sorte de contraste dans sa façon de distribuer il est génial.
C'était l'idée un petit peu du personnage, c'était de faire un voyou dangereux mais très fragile, qui peut pleurer assez souvent. Il pleure 4 fois dans le film, alors que c'est le méchant du film. Dans presque chaque scène, il pleure. Mais du coup, ça le rend encore plus flippant, je trouve.
Ouais. Il a aussi un côté cartoon quelque part dans ce côté je chiale alors que je règne finalement sur la cité.
Ouais.
On l'avait vu dans Chouf, qu'il était déjà exceptionnel et vraiment
c'est un acteur incroyable.
Vous lui filez une partition dingue. Enfin, je pense que pour un comédien, ça doit être assez jouissif de se dire voilà, la danse qu'il fait un moment dans la boîte, elle est folle aussi.
Ah oui. C'était la danse, c'est le dernier truc qu'on a filmé dans le film.
Ouais.
Et c'est parce qu'il nous reste un peu de temps, donc on s'est dit danse, ça servira un moment dans le film, et il a donné une heure de danse absolument incroyable.
C'est fou ce qu'il
fait. Je pense qu'il faudrait même sortir l'heure de danse qu'il a fait.
Mais pourquoi il n'y a pas les bonus?
Ah, mais ça, c'est parce que les bonus arriveront plus tard. Il y a des bonus secrets sur DVD.
C'est la réclame.
Non,
ça.
Non, Romain.
Peut-être pour la version 1, la version 1.
Romain.
Non, en fait, les bonus.
On a regardé.
Les bonus, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire que pour faire des bonus bien, il faut vraiment faire des bonus très bien.
Jusque-là.
On va rester là-dessus.
Ça veut dire quoi que la matière n'était pas suffisamment importante pour faire des bonus? Karim,
ça vous va ce bruitage ou pas, Romain?
Pas mal. Ça veut dire qu'il y a un bon film surtout. Des fois, un film, ça suffit à lui-même.
Accepte. Mais Karim.
Des fois, tu reçois des films où t'es en galère et t'aimes pas le film, tu vois. Et là, t'es obligé de regarder les bonus.
Je suis pas du tout d'accord. Quand je vois un DVD et que le film est pas bon, jamais je vais aller voir les bonus. Jamais, à l'inverse. Quand le film est bon et que j'ai un goût de trop peu, j'ai envie d'avoir des scènes coupées, j'ai envie de voir des
Le problème des bonus, c'est que des fois, les making-of, je trouve que ça peut casser un peu la magie d'un film.
Les scènes coupées,
ouais, mais grâce à Internet, en fait, l'idée, c'est de bien les sélectionner et de les sortir sur Internet. C'est-à-dire que maintenant, tous les bonus se retrouvent très vite sur Internet et du coup le plaisir de les voir sur Internet, ça n'a aucun sens ce que je dis. Mais surtout j'essaie de justifier
pas de bonus. On va dire OK. On va dire que le DVD est obsolète, c'est con, mais le film sort en DVD.
Non, mais vous vouliez pas mettre de bonus sur dans le DVD?
Non, je voulais pas parce que j'aime bien l'idée le DVD soit un film.
Bah, dites-le. D'accord. Le monde est à toi en DVD, Maréchal. Ganache, vous avez aimé, ça va marcher.
Écoutez, mon cher Linguet, je souscris, j'affirme et je ratifie tout ce que vous venez de dire sur la sortie de cette excellente comédie en DVD et en ray bleu.
Non, Blu-ray.
Je parle français.
Mais c'est pas en ray bleu, ça.
Je parle français.
Blu-ray, monsieur.
En chaîne. Oui. Vous pouvez tiquer, je parle français. Donc, pas de bonus, mais histoire déjantée, originale, bande-son formidable, réalisation impeccable de Gavas Romain, interprétation de première bourre, dont bien sûr celle de Luc Le Carim, dans le rôle de François. Bref, je peux vous dire que ce film est vraiment bon, car malgré les conditions difficiles dans lesquelles je l'ai regardé, j'ai pas décroché une seconde de l'écran.
Quelles étaient ces conditions difficiles, Maréchal?
Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais avec des copains résidant des Vieux Glands, mon hospice à La Châtre, dans l'Indre, on a rejoint les Gilets jaunes. Même si ça me rappelle un peu trop les Viettes. Et pour être honnête, j'ai pas que le gilet jaune. Bon, ça c'est une blague rajoutée par GNB. Bref, en ce moment, sur mon rond-point, j'accomplis ma mission. Boucher l'entrée de La Châtre. Mais comme je m'ennuie, je regarde des films sur l'iPad de l'EHPAD. Bref, après ce mouillage de compresse, cette réclame, pour le monde est à toi, puisque vous m'avez appelé au rapport, Nagui, il est de mon devoir de vous faire part, quand même, de mes réticences, pour ne pas dire de mon dégoût.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Concernant les états de service de François, alias Karim Leclou. Dans cette histoire, je vais vous dire un bon truc. Un type qui, quand il est pris dans un traquenard, un merdier pas possible, compte sur sa mère pour le sortir de ce mess épouvantable dans lequel il s'est fourré. Une répétition, là. Donc... Et pour moi, c'est un gars qui n'a rien dans le froc. Je vais vous dire, Nagui, même dans les pires moments de ma carrière, de baroudeur, jamais, jamais je n'ai crié « maman ». Autant qu'un. C'était en 54, la veille de Noël, comme en ce moment, j'avais été capturé par les Viettes. Tandis que le terrible général Suziwan me torturait avec des sangsues grosses comme des portions de boudin noir, qu'il encourageait à vampiriser le fondement, j'ai serré les dents, qu'il ne m'avait pas encore arraché, car j'aurais honte d'appeler ma mère. Mais j'avais oublié que depuis ces atroces succions, je ne peux pas rester assis plus de 3 minutes. Aussi... vais-je devoir vous
laisser.
Bonne
nouvelle, merci beaucoup.
L'émission est à vous. Merci. On verra ça tout à l'heure, Karim.
Midi, la bande originale. Vous me demandez, Romain Gavras, si vous aviez pensé, en écrivant le film, qu'il y avait des personnages qui pouvaient faire penser à des personnages de bande dessinée. On parlait de la dimension un peu cartoon de Poutine, de Sofiane. Mais quand on voit le duo des copains de cité, on a l'impression de voir les Dupont. Adjani, elle a un côté un peu Castafiore, grande diva, qui traverse le temps sans vraiment regarder autour d'elle. On a Vincent Cassel qui pourrait être une sorte de mec qui grommelle sans cesse comme un capitaine ad hoc. Enfin, il y a plein de choses comme ça où je me suis dit, est-ce qu'inconsciemment il y a des références qui étaient dans votre tête?
Je pense inconsciemment, ouais, comme l'idée c'était c'était d'être au-dessus de la réalité, donc de pas forcément être dans un truc hyper réaliste, mais de partir d'une réalité et après de l'étendre un petit peu vers des personnages des fois caricaturaux, des fois haut en couleur et tout ça. Donc forcément, ouais, la BD s'y prête complètement.
Mais c'est vrai que rien n'empêche un dealer d'aimer sa maman à un point où ça vient entraver son comportement et se poser des questions.
Et un caïd d'aimer son chien pleurer.
C'est super.
Vincent Cassel, dans la première scène dans la voiture, quand on n'a pas encore les clés du film, j'ai envie de dire, les codes du film.
Déjà, il faut le reconnaître.
Elle est dingue.
Au début, on ne le reconnaît pas. C'est quand même assez fou.
J'ai cru que c'est Johnny Hallyday, moi, au début. Non, mais il a un côté avec son bouc, comme ça.
L'idée, c'était de faire un mec à passer toutes les années 2000 en prison, à prendre beaucoup de cachets pour être calme, et du coup, n'a pas vu l'ère Internet, et n'a pas vu les années 2000, et sort, et un petit peu, comme ça, en quête de sens, en fait. Il cherche du sens un peu partout.
Et il réactualise finalement ses connaissances avec Internet et il tombe sur les Illuminati.
C'est ça. Et du coup, deux petits jeunes le mettent un petit peu, lui montrent des vidéos conspirationnistes sur Internet, des vidéos d'Illuminati, et il se plonge dedans et il trouve du sens là-dedans. Et du coup, pour l'écriture du film, on en a maté beaucoup, dont... Il y a toute une branche de mecs qui croient que la Terre est plate. Ouais. Et après 4 nuits blanches de mater des vidéos sur YouTube de la Terre est plate, je commence à avoir des doutes moi-même sur la rondeur de la Terre. Voilà.
Le monde est à toi en DVD. Le film de Romain Gavras, on en parle évidemment aujourd'hui avec Karim Leclou et Romain qui sont nos invités. Alexis, selon un sondage IFOP, les Parisiens rejetteraient les populations africaines et moyennes-orientales, carrément.
Oui, Nagui. J'ai appris ça en lisant Les Inrecuptibles, ce magazine double emploi qui propose des articles intéressants sur un papier assez fin pour se nettoyer les fesses quand on est en rate de papier toilette. Non, mais c'est vrai, il a un petit truc, ce papier. Parfois, quand je sors du supermarché, je me dis, merde, j'ai oublié le PQ. Du coup, je passe au kiosque acheter les Inrocs.
Parce que... Ok.
C'est vrai, parce que...
Non, mais sans t'oublier de prendre quelque chose au supermarché.
Ça mérite d'être clair.
C'est toujours chiant d'y retourner au supermarché. Ouais, t'es là avec tes sacs. Excusez-moi, en fait, c'est que... Enfin, je viens d'acheter, j'ai déjà payé, mais j'ai pas gardé le ticket. Enfin, bref. Le titre de l'article qui reprend le sondage IFOP, c'est « Plus d'un Parisien sur deux refuse d'être en couple avec une personne originaire d'Afrique ou du Moyen-Orient ».
Ah bon ?
C'est violent.
Ouais, alors au début, l'info surprend. Moi, je me suis dit « Comment ? Les Parisiens ne veulent pas s'unir avec des Africains ou des gens moyennement orientaux ? Mais pourquoi ? Quand ils sont petits, on les adore, ils ont des petites bouilles toutes mimi, et c'est tellement agréable de toucher leurs cheveux, tout frisé, tu sais. » Après, je me suis dit « En fait, c'est pas une immense surprise. » C'est pas comme si en France, il n'y avait pas un léger rejet des étrangers à pommade.
Non.
Marine Le Pen au deuxième tour, c'est pas si vieux. Ok, elle est un peu moins furieuse que son père, mais quand elle traverse le 18e arrondissement de Paris, elle sort pas la tête de la bagnole pour dire « Salut les Noirs ! Mon père vous détestait, mais moi je vous kiffe !» Selon le résultat du sondage, 57% des Parisiens refuseraient de se mettre en couple avec une personne originaire d'Afrique subsaharienne. Car selon l'article, il s'agirait d'une culture conservatrice peu respectueuse des principes d'égalité entre les sexes. En même temps, la réciprocité est peut-être vraie aussi. Ce serait intéressant de comparer les résultats. Je suis pas sûr que 100% des personnes originaires d'Afrique subsaharienne aient envie de se marier avec un Parisien ou une Parisienne.
C'est vrai. Ouais.
On apprend aussi que dans le sondage...
Ça existe pas, ce genre de sondage, ouais.
Ben ouais, il n'y a pas l'IFOP Afrique. Donc, on apprend aussi que dans ce sondage, 51% des Parisiens refuseraient de se mettre en couple avec une personne originaire du Maghreb ou du Moyen-Orient. Mais 51%, c'est quoi? Grosso modo, c'est la moitié. Donc, au lieu de titrer « Plus d'un Parisien sur deux refuse d'être en couple avec une personne originaire d'Afrique ou du Moyen-Orient », le journaliste aurait pu écrire « Presque la moitié des Parisiens sont OK pour être en couple avec une personne originaire d'Afrique ou du Moyen-Orient ».
T'as raison.
C'est la même info, basée sur les mêmes statistiques, mais dans un sens, le message qu'on retient, c'est « Les Parisiens sont des racistes », alors que dans l'autre, tu te dis « Ah bah finalement, tu vois, la moitié des Parisiens sont quand même prêts à sortir avec un Arabe, c'est pas si mal ». Je veux dire, l'info, c'est de la précision, c'est comme la cuisine. Moi, hier soir, j'ai voulu faire des œufs à la coque, avec des mouillettes et du beurre. J'aime bien ça, parce que souvent, le soir, je mange des omelettes, mais il faut varier son alimentation. Du coup, j'ai regardé le temps de cuisson sur Internet. 5 minutes. Bon, ben moi, j'avais 2 œufs, du coup, j'ai mis 10 minutes.
Quoi, non, les œufs à la coque ?
Ouais, 5 minutes.
Non, 2 minutes 30, t'es fou ?
Ah bon ?
Ouais, bon, c'est pas grave, 5, c'était pas mal.
Je vais prendre note. Ouais. Sur quel site, Nagui ?
Non, dans ma casserole.
Bon, là, vous vous dites, ah là là, le rossignol, il est beau, il a du talent, mais parfois, il est sacrément con, quand même. Et après, vous vous demandez, mais quel est le rapport entre les œufs et le sondage ? Ah. Aucun, mais si ça peut éviter à ne serait-ce qu'une personne de faire la même erreur que moi et de rater ses œufs, ben, ça valait le coup de le dire. Combien de personnes mourraient chaque année dans leur bain si Claude François s'était pas électrocuté ? Je veux dire, on lui doit beaucoup. Moi, j'y pense tous les 3 jours quand je me lave. Par rapport au sujet, ce que je veux dire, c'est que les journalistes ont leur part de responsabilité dans la morosité ambiante. Tu sais, ils font dans le sensationnel parce que ça fait vendre, mais en faisant ça, ils font le terrain du pessimisme. Et qui profite du pessimisme? Ouais. Les extrêmes, les populistes, Vincent Delerme. Non, mais. Non. C'est vrai, au lieu de dire.
C'est gratuit. Dire que c'est, 15%, gratuit.
C'est gratuit. Non, mais c'est bien vu.
Au lieu de dire.
Au lieu de dire, voilà, que 15%. Merci, Leïla. Que 15% des gens ne mangent pas à leur faim tous les jours. On pourrait dire 85% des habitants de la planète mangent bien. On pourrait faire des reportages chez ces gens qui mangent trois fois par jour, grignotent entre les repas, mais qui quand même terminent leur assiette en pensant aux petits Africains qui ont faim. Je veux dire, ce sont des héros du quotidien, ces gens-là. Sans eux, le niveau de famine serait beaucoup plus élevé et on n'en parle jamais. Bon, comme je sens que cette chronique va pas mal circuler dans les groupes Facebook des gens qui font bouger les choses ou qui font du Bikram yoga, j'en profite pour dire que je cherche un logement dans Paris ou proche périphérie pour début janvier. Voilà, chambre chez l'habitant, location, colocation, fourgon aménagé, tout m'intéresse. Hein. Je prends pas beaucoup de place, je reçois jamais personne, j'utilise pas beaucoup d'eau. Vraiment, je suis le locataire qu'il vous faut. Hein. En revanche, j'ai pas de CDI. Chez France Inter, je signe des CDI journaliers. Chaque semaine, j'ai le cœur qui bat en me disant « Est-ce que c'est pas la dernière ?» Je joue aussi dans des cafés-théâtres et des salles de fêtes en province, mais c'est soit payé en cash, soit payé en nature. Ah ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai, il y a 15 jours, j'étais au Mans, on m'a filé 3 kilos de rillettes, il m'en reste encore. Tu vois. Donc, si certaines personnes souhaitent m'envoyer une candidature pour m'accueillir chez eux, n'hésitez pas, j'étudie tout. Vous pouvez m'écrire sur Facebook, Instagram ou Twitter, je suis réactif. Allez, à très vite chez vous.
Merci, Alexis. Alors oui, il y a la bande son du film Le Monde est à toi, mais il y a aussi la bande originale de vos vices que vous écoutiez comme musique, par exemple dans les années 80. Romain Gavras, écoutez.
Oui, je m'en fous.
Ah, vous êtes très chanson française, en fait.
Ouais. Ah, bah, ça, c'est 81, c'est l'année où je suis né, donc j'écoutais pas Jean Schultes quand je suis né, mais par la suite.
Mais par la, oui, par la suite, c'est voilà. Ça. D'accord. C'était le genre de musique qui pouvait passer à la maison?
Non, à la maison, c'était plus de la musique grecque, genre du Théodorakis, d'Alaras.
Ne dis pas sur ce ton-là.
Non, c'est pas du tout. J'adore la musique grecque.
Il y avait un petit côté où.
Non. Je pense que les compositeurs de musique de films. Ouais. Les Grecs sont les meilleurs, Vangelis, Théodorakis.
C'est vrai.
Vous êtes né à Athènes?
Non, je suis né à Paris.
Ah bon, d'accord. Ouais.
C'est les internets. C'est les fake news des internets.
Mais un 4 juillet quand même.
Un 4 juillet, comme Tom Cruise.
D'accord.
Voilà. Comme Tom Cruise, ouais, c'est vrai.
Ouais.
Tom Cruise, là. Ma mère dit que je ressemble à Tom Cruise. Ouais.
D'accord. Voilà. Enfin, vous n'êtes pas dans une secte, vous.
Non. Voilà.
Ce qui fait la différence.
Et si vous devez nous parler de films que vous avez vus enfant?
Alors enfant, moi, comme donc j'ai un père réalisateur, j'ai vu des films beaucoup trop intelligents, beaucoup trop jeunes, donc le cuirassé Potemkin à 9 ans, ouais. Et tout ça, donc j'ai fait ma crise d'adolescence en regardant des films comme Piège de cristal à 12 ans, et c'était mes films préférés durant mon adolescence, par rébellion.
Normal. On peut aimer Z et Piège de cristal. Enfin,
ah bien sûr, c'est bien, pas sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup de revenir par la suite à aussi des films intelligents.
Et un film choc qui vous a vraiment donné envie de réaliser, à moins que réalisateur, c'était déjà quasiment inconsciemment votre destinée.
C'est-à-dire que comme j'ai grandi dans une famille de cinéma, c'était un petit peu obligatoire de faire ça. Et après, je pense que le premier film vraiment dont j'ai un souvenir hyper vivide, où je l'ai sûrement vu trop jeune, vers 10 ans, c'était Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone. La version longue, voilà. Et en fait, les images me sont restées. Et c'est quelque chose qui m'a donné envie de faire du cinéma. Voilà.
Et puis, il y a cette bande quand même avec Kim Chapiron, Vincent Cassel. Si vous n'aviez pas été pote d'enfance avec Vincent Cassel, vous pensez que ça aurait été difficile de le convaincre de...
Alors, en fait, on était pote d'enfance avec Kim, on n'est pas de la même génération. J'ai une tête plus vieille, mais je suis né en 80. Vincent a 10 ans de plus que nous. Donc, Vincent, en fait, assez vite, on habitait dans le même immeuble que Mathieu Kassovitz. Et du coup, on faisait des petits courts-métrages comme ça quand on avait 13-14 ans. Et Vincent nous a vus, ils se sont dit, ah, ils sont marrants, ces petits gamins. Et il nous a un petit peu aidé à tourner, à être devant la caméra, à nous parrainer un petit peu, et puis petit à petit on est devenus amis. Ouais.
Quant à vous, Karim Leclou, vous écoutiez le morceau que tout jeune joueur de guitare veut apprendre à jouer et s'essaye. Je sais pas si vous avez essayé de jouer ça.
J'étais sûr que t'allais gonner. J'étais sûr que t'allais me faire.
Vous jouez de la guitare ou pas?
Non, mais mon...
C'est pas possible de répondre comme ça.
Non.
Mais
mon père écoutait ça, donc du coup, en 82, bah, sûrement que ça m'a bercé un petit peu.
au voilà. moment où, où vous êtes né, hein, l'année où vous êtes né en 82, en région parisienne.
Ouais, c'est ça.
Et vous, en souvenir cinématographique, vous citez souvent dans les interviews.
Là, en 82, Socrates, Platini, Bellumi, c'est la Coupe du Monde.
Ah oui, c'est le foot.
Et voilà.
Ça, c'est le foot.
C'est surtout. C'est, ouais, mais ouais,
ouais. Ouais, c'est vrai.
Ça va bien avec Europa, Socrates.
Non. Mais,
si, ça va tellement.
Socrates,
avec...
non.
Ouais, mais si.
Il faut une samba, Socrates.
Non, non, ça, ça va bien. Justement, ouais. Socrates.
Quand ça accélère. Quand ça accélère. Ça,
non, il a un rythme différent. Il est un peu gros. Il, tu vois, il y a un truc. C'est différent, quoi. Socrates.
Ouais, ouais, il était quand même élégant.
Il était élégant.
Ouais, très
comme,
élégant.
Comme Santana.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Tu vois, j'aime bien quand t'es d'accord.
Quel film ou pas. Quel,
ouais,
film, vous, quel film vous regardiez
à... ouais. Ouais, aux souvenirs cinématographiques, vous enfin, parlez beaucoup de Spike Lee.
Ouais, enfin, parce que c'est le. Je l'ai vu aussi un peu trop jeune en cassette vidéo. Il m'a marqué le film, puisqu'il avait une dimension politique que
c'était
je comprenais
quoi, trop
pas.
Jeune.
Je sais pas, je vais avoir 10 ans,
ah oui.
9-10 ans.
Comment on comprends. Se retrouve à voir un film comme ça à 10 ans? C'est, on va au cinéma, on
non, les
cassettes
une... vidéo.
Club, les cassettes, ouais. On loue les cassettes.
Ouais, et disons que ce film-là m'a envoyé en l'air, quoi. Quand j'avais 10 ans. Mais il y avait aussi les Gremlins, Rambo, parce que je veux pas faire que le mytho, ouais. Tu vois, en vrai, avec ma mère, je crois que... elle aimait bien que je regarde les Gremlins, parce qu'elle me disait, tiens, tu lui ressembles un peu. Enfin, ils ont les Gremlins. Donc voilà.
En 2007, Romain Gavras, vous écoutiez. Cette musique vous évoque quoi? On revoit quelles images?
Alors, bah...
DJ Mehdi.
Voilà, c'était DJ Mehdi, Pocket Piano, qui était un grand ami à moi et à toute notre bande qui est mort depuis. Le film lui est dédié. Et c'était une époque 2007 où, que ce soit nous à la réalisation avec nos amis de Courtrajmé ou dans la musique avec DJ Mehdi, Justice et tout ça, c'était un moment où on se formait un petit peu. C'est-à-dire qu'on... on commençait à voyager, on commençait à faire des clips avec un peu de budget, on commençait à découvrir le monde.
Et à devenir clip, professionnel.
Ouais. Hein. À devenir un peu, ouais, à devenir professionnel et aussi à élargir un petit peu nos horizons et à faire des trucs un petit peu plus développés que ce que je faisais avant.
Et en particulier, un clip qui marque beaucoup les esprits, c'est Stress pour Justice aussi, qui montre en fait une... J'adore cette musique. Et racontez-nous ce qu'on voit à l'image sur cette musique.
Alors à l'image, on voit une bande de jeunes qui descendent sur Paris filmés par des caméras. Ça, c'est un détail très important parce mm-hmm. que la caméra devient un des personnages principaux. Ouais. Et les jeunes
sont... Des caméras de sécurité.
Non, un caméraman avec un preneur de son. C'est-à-dire d'accord. que c'est une dialectique en fait entre les jeunes et la caméra.
Le rapport entre l'image
voilà.
et la caméra.
Et du coup, ils descendent sur Paris, ils cassent tout. Et à la fin, ils se retournent vers la caméra et ils tabassent le caméraman. Et ils brûlent une voiture.
C'est marrant, les images qu'on a vues il n'y a pas longtemps, tout ça. C'est fou.
C'était moins bien filmé.
C'était moins bien filmé, ouais.
Et très rapidement, ce clip en ligne est vu un nombre incalculable de fois. C'est un gros succès. Et le revers, j'ai envie de dire, de la médaille, c'est tout d'un coup, on vous accuse d'une forme d'incitation ou d'éloge de la violence.
De trop de violence, ouais.
Bah, en fait, il y avait un peu tout. C'est-à-dire que les journaux de gauche disaient que c'était... un clip presque raciste, les journaux ouais. de droite disaient que j'étais un anarchiste nihiliste, du coup j'étais au milieu.
C'est quand on a
j'étais
réussi, qu'on est, généralement c'est plutôt bon signe
ouais,
quand
voilà,
on se fait attaquer de chaque côté.
C'est ça, ouais, en fait. Après c'est avec le recul que les gens ont pu commencer à voir, mais comme souvent sur beaucoup de choses, avoir un débat intelligent.
Et alors, vous vouliez quoi, vous?
Alors moi, je sais, ouais, on sait jamais vraiment ce qu'on filme.
Quand même.
Non, c'est vrai.
C'est une écriture.
Non, c'est une écriture. En fait, moi, je trouvais ça intéressant, le rapport entre justement la caméra et les jeunes. Et c'est pour ça que la caméra dans le film est très présente et qu'à la fin, ça se retourne, la violence se retourne contre la caméra. Et du coup, c'était un peu cette recherche-là entre la violence, ce qui fascine même moi en tant que réalisateur, ouais. parce que la caméra, c'est moi. Et que ça se retourne à la fin contre nous. Donc c'est vraiment ce rapport à l'image-là. Et après aussi, un clip, c'est une adéquation entre une musique et l'image.
C'est vrai que la
et
musique fois, elle-même est...
Et des fois, c'est plus. Ouais. Exactement. Et des fois, c'est ouais. plus sensoriel qu'intellectuel.
Ouais.
En 2000, dans ces années-là, 2007-2008, Karim Leclou, vous écoutiez Tupac.
Come on.
give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare.
Karim, dans ces années-là, vous êtes détecté d'une certaine façon par une directrice de casting qui vous permet de commencer à incarner des petits rôles, ouais. Aux côtés de Roche Dizem, je crois.
Ouais, c'est la directrice de casting, c'était Isabelle Ungaro, et elle nous avait vus dans un court-métrage avec des potes, et, ouais. et elle nous avait tous repris pour faire une petite scène de délinquant. J'ai commencé mon parcours dans la délinquance cinématographique.
Et vous avez enchaîné avec Odia.
Un prophète, je me suis retrouvé en tôle juste après.
C'est ça, c'est logique.
Le juge, la tôle, et puis après on a eu la chance de aussi de s'évader de ces thématiques, ouais. ou d'y revenir différemment.
Et voilà. on vous voit avec brio dans Hippocrate en ce moment sur Canal, on a adoré la série, ouais, et cartoon, vous incarnez un super médecin charismatique, taiseux, un peu mystérieux, et on a envie de savoir ce que vous allez devenir dans cette série d'ailleurs.
Moi aussi, j'ai envie de le
savoir. On a le sentiment que souvent les acteurs font appel à des expériences personnelles pour interpréter des rôles. À l'inverse, est-ce que les rôles peuvent avoir une influence sur sa vie perso?
Je vais répondre très concrètement, parce qu'avant qu'il le dise, je préfère m'auto-balancer. Oui, la veste en cuir que je porte sur moi, c'est la veste du tournage. Ouais. Voilà, donc oui, ça peut influencer. Moi, je réponds très concrètement à la question. Les rôles peuvent aussi influencer le personnel. Voilà, on récupère parfois des vêtements, des trucs, et on est un peu plus stylé. Moi, toute ma garde-robe un peu stylée, c'est souvent, ça vient des tournages. Voilà, je me balance.
On veut bien récupérer la garde-robe d'Isabelle Adjani, alors, à ce qu'on fait dans le film. Ça c'est assez intéressant.
Ouais. Ça pourrait être pas
et
mal.
Et pour revenir à Jacques Audiard, qu'est-ce que vous retenez de cette collaboration avec lui?
C'était impressionnant, parce que moi, c'était vraiment... Enfin, je fais vraiment un tout petit truc dans le film, et je trouve que c'est un metteur en scène... fantastique et spécial, qui avait une énergie sur son plateau qui était assez folle. En plus, c'était pas, il y avait pas de comédien forcément hormis Nils Haristrup, et pas de comédien très très connu. Ouais. Et du coup, il y avait une émulation assez fantastique sur ce plateau.
Alors, en quoi est-il spécial?
Il est spécial parce que je trouve qu'il, comme Romain, c'est des gens qui rêvent un peu de, qui prennent un univers et puis qui rêvent. Et je trouve que le rêve au cinéma, c'est quelque chose de beau. Et concrètement, je trouve que c'est pas que des visions de terre à terre, et qui prend un sujet, qui le grandit.
On parlait avec Vincent Cassel de la manière de diriger, justement, ou d'être dirigé. Vous attendez quoi, Karim Leclou, d'un réalisateur? Qu'il vous laisse une totale liberté, ou au contraire, qu'il dirige au sens propre du terme?
J'en sais rien. Enfin, à l'avance, réellement, j'en sais rien. Justement, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est de tomber sur des personnalités différentes, et de faire aussi avec, et qu'il y ait un dialogue forcément, mais il n'y a pas de direction. Moi, j'attends pas une direction précise, je me laisse aller à des expériences, parce que c'est des expériences, et avec Romain, c'était une...
Alors justement, vous, Romain, vous travaillez comment? Vous donnez des ordres,
le dictateur,
c'est le chrono qui dit.
C'est son indication de mise en scène, c'est tendu.
Ah, c'est son mot.
C'est son mot. En tout cas, moi, je me le suis beaucoup pris dans la tête. Et des fois, quand il s'énervait vraiment, il me le répétait beaucoup. Et voilà. Donc, il
est. Je m'énervais pas, c'est pas vrai.
Bon, si, tu
Non, l'idée. Moi, j'avais pas fait de film depuis 8 ans. Donc, travailler avec les comédiens, c'était vraiment le côté, le vrai challenge du film. Et du coup, on a beaucoup répété avant pour trouver un peu la musicalité du film. Parce que, comme le film est un petit peu au-dessus de la réalité, il fallait trouver des scènes un peu à côté. C'est-à-dire, pour pas user les scènes. Du coup, on faisait des scènes un petit peu autour des scènes. On sait exactement ce qu'on fait. Du coup, on peut se permettre des écarts et se permettre d'improviser sur certaines choses. Parce que on a la musique du film en tête. Avec les comédiens.
Tout est écrit, les didascalies, les intentions,
tout est écrit avec Karim Boukercha et Noé Debré, où on a vraiment le scénario au final est très proche du film, sauf qu'il y a des écarts des fois, que ce soit entre Sofiane et Karim, des trucs de Vincent ou des trucs avec Isabelle, où on s'est permis une espèce de liberté. Et forcément avec François Damiens, parce qu'on a François Damiens, ouais. sur le plateau, on coupe pas la caméra en fait. C'est-à-dire que vraiment,
on en garde pour les bonus.
Non, mais il adore les moments de malaise. Moi, j'adore les moments de malaise. Du coup, on laisse couler. Et donc, tout le monde est hyper mal à l'aise sur le plateau. Le Perchman a les larmes aux yeux tellement il rigole. Donc, personne ne bouge. Et il peut partir. Ça peut durer vraiment des heures avec François.
Thomas Boré, bonjour Thomas.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Studio Ciné Live. Justement, on parle du cinéma, du film de genre, et de genre gangster. C'est ce que Romain Gavras nous a bien expliqué tout à l'heure. Si vous avez une définition à donner du film de gangster?
C'est d'abord c'est un genre américain, c'est né en fait sur en même temps que la prohibition. C'est ça qui est intéressant, c'est le synchronisme entre l'histoire et le genre. Et c'est un genre qui est né aux États-Unis avant la censure morale, avant le code Hays. Donc il y avait quelque chose comme ça d'assez presque nihiliste et très tendu. Et le film de gangster, bah c'est des gens qui sont hors la loi. C'est-à-dire que contrairement à certains films où c'est des victimes d'un système, alors peut-être qu'ils sont victimes d'un système, mais quand on les prend dans un film, ce sont des vrais brigands, des gens qui refusent de qui se mettent sciemment du mauvais côté de la loi.
Aujourd'hui, quand on dit film de gangster, est-ce que c'est une question de rythme, presque de montage, de scène, de cascade, de violence et de musique? Est-ce que c'est un mélange de tout ça?
Oui, alors c'est peut-être un mélange de tout ça. C'est surtout que à chaque époque, son film de gangster, et c'est vrai qu'on le voit, j'écoutais la discussion, on parlait beaucoup d'humour, et c'est vrai qu'en France, on a fait beaucoup de cinéma aussi de gangster d'humour, avec les films scénarisés par le père de Jacques Audiard, Michel Audiard. Donc le genre, il est totalement hybride, et c'est ça qui est intéressant, et c'est surtout iconoclaste, comme le fait Romain Gavras dans son film, c'est-à-dire que à la fois, on reconnaît comme ça des choses un peu pop dans le film, mais ouais. Ça reste quand même très iconoclaste et très il lit ça qui me plaît en fait.
Et la place des femmes alors dans les films de gangsters, parce que elles sont très présentes et déterminantes dans le monde des tatouages.
Alors c'est intéressant de voir un peu l'évolution du cinéma des films de gangsters. C'est vrai que les femmes souvent ont été soit des femmes fatales, soit des mères possessives comme on le voit dans le film. Et ça rappelle d'ailleurs un film majeur de Raoul Walsh qui s'appelle L'enfer est à lui. Voilà, avec James Cagney qui
référence Romain.
Ouais, grosse référence. Mmh. On en parlait juste avant l'émission et c'était John Landis qui est dans le film, qui a un petit caméo dans le film, qui m'avait conseillé ce film où c'est James Cagney qui a une mère hyper acariâtre, horrible, mais encore plus horrible que dans le film. Et je trouvais ça intéressant en fait d'avoir un film de gangster où la ligne c'est un rapport entre un fils et sa mère en fait.
Et c'est vrai que, par exemple, Faye Dunaway dans Bonnie and Clyde, qui est un peu une espèce de quintessence du film de gangster moderne, elle est aussi importante que Warren Beatty. Et rappelons-nous que Warren Beatty est impuissant dans le film, n'arrive pas à la satisfaire. Et c'est vrai que Faye Dunaway dans le film, et ça c'est un renversement américain à ce moment-là avec le nouvel Hollywood, la place de la femme est d'autant plus forte et importante dans les films de gangster.
Ouais, c'est un peu le monstre moderne, la femme dans les films de gangster, en fait.
Oui, c'est un peu le monstre moderne. Et on sent que la femme peut être l'avenir des gangsters et que c'est elle qui, au final, tient les clés de la maison, elle va perpétuer presque un mythe, et on le voit dans le monde des tatouages avec tous les personnages féminins.
Autre clé d'un film de gangster, le casting. J'imagine que, évidemment, le cast est important, et là, le choix de Romain Gavras, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour Karim Leclou, c'est de mettre Karim Leclou en rôle principal, et en second rôle, entre guillemets, Isabelle Adjani, Vincent Cassel, François Damiens, Philippe Catherine, enfin, c'est impressionnant de le faire comme dans ce sens-là.
Bah, ce qui est intéressant, c'est le principe même des affranchis ou même de tout film de gangster. On suit des gens et on voit tout leur apprentissage. Et à chaque fois, ils ont des aînés, des gens, des modèles sur lesquels ils vont pouvoir un peu se construire. Mmh. Et peut-être qu'on peut imaginer qu'il y a une double lecture dans le film où Karim Leclou devient l'espèce comme ça de successeur de toutes ces figures qui sont autour de lui. C'était le cas, mais Belmondo a commencé comme ça. En écoutant Gabin, Lino Ventura, pareil. Donc il y a comme ça une espèce comme ça de famille. Souvent, c'est surtout aussi des personnages qui ont une espèce de présence, un charisme évident à l'écran. C'est-à-dire qu'un gangster est forcément du charisme.
Romain Gavras, la notoriété de Karim Leclou a été un sujet entre les producteurs et vous ou il n'y a pas eu de débat?
Non, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat tant que on a un cast dans sa globalité qui fait sens. C'est-à-dire que c'est toujours pareil pour budgéter un film. Il faut un petit peu des petits biscuits pour... Et je dis pas que Isabelle Adjani et Vincent Cassel sont des petits biscuits. Je dis juste qu'il faut être malin dans l'approche d'un film dans sa globalité.
Il faut qu'ils acceptent d'être, entre guillemets, le second rôle.
Oui, exactement. Mais je pense qu'en fait, pour... Les seconds rôles, quand ils sont hauts en couleur et quand il y a quelque chose à faire, les acteurs adorent ça, surtout quand c'est du contre-emploi et tout ça. Et l'idée de prendre Karim et de pas avoir un personnage principal qui était, maintenant, ça devient une méga star et c'est déjà un honneur de l'avoir sur ce plateau, mais d'avoir quelqu'un de pas forcément un acteur hyper connu, c'était important parce qu'encore une fois, c'est un mec normal qui essaye de s'échapper d'un film de voyou et du coup.
Donc là, c'est le casting, c'était le comédien qui allait bien avec le personnage.
Exactement, ouais. Et puis on l'a vraiment écrit en pensant à lui. Moi, j'avais vu tous les films où Karim a joué dedans et il est incroyable dans chaque film. Et du coup, moi, ça m'aide beaucoup d'écrire en pensant à un acteur. Et il a été écrit en pensant à Karim, le film.
Pour en revenir au film de gangster et de genre, Thomas Boré, il y a aussi presque le côté biopic des vrais gangsters à l'image, adaptés à les Al Capone et autres.
Ouais, absolument. Alors c'est presque un sous-genre, c'est le film de mafia, hein, tous ces gens qui ont été des espèces de mythes et même des légendes. Comment le film et comment le cinéma va perpétuer un mythe et même le transcender et montrer un peu aussi la chute. Et là aussi, il y a une espèce d'évolution, même dans les biopics. C'est vrai qu'en France, on a aussi fait le biopic sur Mérine, qui est avec Vincent Cassel, justement, qui était à la fois extraordinaire pour justement se montrer à la fois.
Réalisé par Jean-François Richer,
oui. Voilà, absolument. Et donc, oui, c'est intéressant. Ce que j'aime aussi beaucoup dans le film de gangster et dans celui-là, c'est le territoire qui est filmé, les décors. Et là, effectivement, on filme un décor absolument incroyable, mais il donne cette espèce de monde presque aseptisé en déliquescence qui représente un peu le chaos du monde aujourd'hui. Et c'est beaucoup de films de gangsters. On avait parlé aussi de Miami Vice de Michael Mann où ils partent à Cuba, ou un film de Jolito qui est un cinéaste en Congo, ils partent à Macao. Il y a comme ça une espèce de ça devient presque abstrait et en même temps c'est hyper concret sur la fin d'un monde, quoi. Et ça, je trouve ça très bien.
Et filmer la banlieue, c'est toujours moi une question que je me pose quand je vois des films comme Ma cité va craquer, quand on parle de la haine, quand on parle de plein de films de genre qui sont un peu des références, et je trouve que vous la filmez d'une très belle manière. Il y a des plans qui sont sublimes, et tout d'un coup, il y a l'horizontalité des buildings qui fait qu'il y a une forme d'ascension, qu'on s'élève, et que c'est pas une vision misérabiliste, en fait, de la cité.
Et d'ailleurs, pardon, les images vues du ciel, sont des drones, elles sont sublimes. La première image, j'ai l'impression que c'est un stade de foot, et en fait, c'est la cité...
Qui fait comme un œil, exactement. Comme un œil, parce que, voilà,
les illuminatifs.
Mais l'idée c'était de faire un film de cinéma, donc pas forcément un film social du tout. C'est-à-dire que de se débarrasser un petit peu d'une idée de si on filme la cité ou un certain milieu, il faut avoir une lecture sociale, et de faire un film de cinéma avec des protagonistes de cinéma et d'assumer le cinéma dans ce territoire.
Ouais.
Jouer, la musique est très importante. Si on revient encore une fois sur ces images de la banlieue, des barres d'immeubles sur lesquelles on met cette musique et cette chanson. Non, mais il y a un décalage.
Ah ouais, complètement.
Sardou et la banlieue, il y a un décalage.
Il habitait longtemps Neuilly. Hein.
On pourrait s'attendre. C'est vrai que c'est la banlieue. Non, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre.
C'est dans le film aussi.
J'entends, j'ai fait exprès. Mais c'est ce décalage-là, c'est une autre écriture aussi, la bande-son, qu'il y a de jouer avec le texte, la poésie de La vie ne m'apprend rien, l'explication de texte faite par Vincent Cassel dans le film, jouer avec le rap, avec Boule Noire et Mes d'Amour, tout ça, il faut qu'elle soit riche aussi en musique, la BO d'un film.
Et l'un des génies là-dessus, c'est Tarantino, on en parlait tout à l'heure, parce que c'est lui qui a commencé à faire des espèces de playlists vraiment pour ses films, et qui faisait des décalages permanents. Mais la musique est très importante, ne serait-ce que l'utilisation des Rolling Stones dans les films de mafieux de Scorsese, c'est en soi un personnage en soi.
Painted Black.
Painted Black, oui, absolument.
Entre autres. Et Miserlou pour Pulp Fiction, qui était...
Ah oui, c'est super.
Qui est un vieux titre qui est allé chercher, en fait. Il a juste remis au goût du jour une vieille musique.
Et là où il est fort, c'est qu'il utilise même des morceaux d'Ennio Morricone pour d'autres films, des genres complètement différents, qu'il réinjecte dans un film de gangster, et du coup, ça reprend une dimension incroyable. C'est fou.
Est-ce qu'il y a un film de gangster qui arrive là, dont vous connaissiez la naissance
j'attends. Bah là, en ce moment, il y en a un. C'est presque le parrain des gangsters, c'est Vidocq avec Vincent Cassel de Jean-François Richer.
Donc,
je citerai celui-là qui est là. Voilà. Écoutez, dans les promesses, on attend toujours un film de Michael Mann. Alors, c'est pas vraiment un gangster, mais c'est un biopic sur Enzo Ferrari. Il avait promis qu'il montrerait la façon d'Enzo Ferrari. Okay. Alors, c'est peut-être un film de gangster.
C'est pas un gangster.
C'est pas un gangster du tout. Pas du tout, okay. Absolument. Mais à part Michael Mann, ça peut le devenir.
Merci Thomas. Merci et bien. Bonne fête à vous. Tanguy Pastureau, les Gilets jaunes ont désormais leur version, mais porno.
Oui, sur Pornhub, un site de vidéo X, il y a désormais des petits films ou des filles en position lascive, en temps de position dans laquelle moi je me ferais 17 claquages, nu à part un gilet jaune, scande en cœur Macron démission.
Non.
Si même le porno, qui est le dernier élément fédérateur en 2018, est contre Macron, ça veut dire qu'il est foutu.
On en parle après les infos de midi. C'est la Cadeau original, soyez bienvenus si vous nous rejoignez avec les lacs. Bonjour. Vous êtes Daniel Morin,
oui, Daniel.
Albert Algou, Tanguy Pastureau, Alexis Laurent-Signol, Frédéric Siglis et nos invités Romain Gavras et Karim Leclou. Le monde est à toi. Comme une petite boîte à musique lancinante avec un bon pied de batterie qui vous fait rentrer les choses dans la tête et des personnages hauts en couleur interprétés par Karim Leclou, Vincent Cassel, François Damiens, Philippe Catherine, Oulaya Amra et Isabelle Adjani. Je l'ai gardé pour la fin pour là aussi poser la question de savoir à quel point elle a accepté ce qu'il vous la connaissiez. C'était facile de la convaincre de jouer sur l'autodérision et de jouer des scènes fortes.
Alors je la connaissais pas, donc j'étais un peu flippé en allant lui demander de lire le scénario et d'accepter le projet. Elle a un petit peu dansé autour de l'idée pendant un mois et
j'aime bien cette formule.
À partir du moment où elle a accepté, c'était absolument génial et c'était vraiment comme je le disais tout à l'heure, on allait chez Versace acheter des foulards pour construire le personnage.
Il fallait que ce soit elle, il fallait que ce soit Isabelle.
Ouais, en fait, je voyais personne d'autre. Elle m'a demandé au moment où je lui ai posé la question, elle m'a dit mais pourquoi tu prends pas quelqu'un d'autre et ça. Et en fait, j'arrivais pas à la convaincre, à lui dire pourquoi je voulais que ce soit elle, mais je voyais personne d'autre en fait. Il y avait personne à qui je pensais, à part ma propre mère, qui aurait pu jouer ce rôle.
Carrément.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est comme ça que vous l'avez convaincu?
Non, c'est pas comme ça que je l'ai convaincu. Je me suis mis à genoux et je l'ai imploré.
C'est vrai.
Non, c'est pas vrai. Mais par contre, on a fait un pacte que, après le film, qu'elle sera dans tous mes films. Même si elle m'a dit, même si c'est de la figuration, même si je dois manger un croissant.
Un caméo quelconque.
Voilà.
Ouais.
Donc,
sympa.
Et pourquoi ce pacte?
Bon deal, en tout cas.
Parce qu'on s'est très bien entendu.
Ouais.
Mais c'est un pacte qu'on aurait pu passer avec Karim Leclou aussi.
Karim, faut passer ça.
Mais il n'a pas accepté.
Ah ouais. Non, apparemment, vu la tête qu'il fait là aujourd'hui, il réfléchit encore. Tanguy Pastureau, c'est maintenant sur Inter. Tanguy, les gilets jaunes sont partout.
Ouais, il y a encore 2 mois, c'était une fringue moche pliée dans la voiture qu'on sortait que si on avait roulé par accident sur un sanglier ou sur une vieille dame. Ce qui est moins sympa parce que c'est immangeable, à moins d'ajouter énormément de sauce. Mais ensuite, la police vient vous voir et vous dit « Ouais, vous êtes un psychopathe ». Enfin, ces gens sont tellement fermés. Mais désormais, le gilet jaune symbolise la révolte. Le Tché en aurait un aujourd'hui. Les révoltés du Bounty, ce seraient des types qui remontent de la cale en gilet jaune et disent au capitaine « On veut la fin des taxes sur les grands voiles ». Vous savez ce que ça coûte de faire un Portsmouth Tahiti. Les gilets jaunes sont un mouvement de fond. Maintenant, Macron va finir ses 3 ans et demi de mandat en sachant qu'à n'importe quel moment, des mecs jaunes peuvent le dégommer. Il a la vie d'un fantôme dans Pac-Man. Et comme tout mouvement d'importance, bah les gilets ont leur version X. C'est France Culture, la radio de bon goût des gens délicats pour qui une grosse nouba destroy, c'est la visite du musée d'Orsay sous Ice-T, qui a fait un papier là-dessus sur Pornhub, un site de streaming porno. C'est comme Netflix, mais avec une utilisation déraisonnée du zoom. On voit rarement les pays. Il y a une section gilet jaune et c'est délirant. Il y a une vidéo où des filles avec juste un gilet jaune sont alignées à 4 pattes en criant Macron démission. 3 jours qu'Alexis Corbière clique sur rejouer la vidéo. On le voit plus. Il est chez lui tellement mouillé quand il veut laver un plat à gratin, il le frotte sur lui plutôt que d'utiliser une éponge. Et parmi les autres vidéos gilet jaune, il y en a une de Chloé Sanchez, une actrice de X, qui bloque une route. Donc là aussi avec juste un gilet jaune sur elle. S'arrête un monsieur en voiture qui filme, elle lui dit un truc comme « Non mon gros loup, on passe pas, j'ai chaud !» Lui répond « Ah bon, mais il faut que j'aille travailler, hein. Les gens dans l'UX sont aussi nuls en diction que Siri sur ton iPhone. » Ce à quoi elle répond « Coco, tu veux le voir mon rond-point, tu veux foutre le feu à ma palette de bois ?» Et c'est parti. Le porno, c'est basique. En 2 minutes, l'intrigue est posée, on s'est farci 37 heures de Star Wars, alors que Chewbacca pouvait coucher avec Luke, on mettait ça sur YouPorn dans la catégorie interraciale, mais quel gâchis! Donc là, on pourrait penser que les vidéos porno des gilets jaunes, c'est une niche, qu'il y a juste Francis Lalanne qui mate ça en se disant « C'est bizarre, hein, moi que je suis en jaune, pas une fois on m'a proposé de retirer mes bottes. » Mais pas du tout. BFM TV s'est intéressé au sujet. Ces petits gorets ont appelé Chloé Sanchez qui leur a dit avoir doublé son nombre d'abonnés, hein, depuis qu'elle est en gilet jaune. Elle a une web TV comme celle de Michel Onfray, mais avec moins de lunettes. Disons quand elle dit en vidéo qu'elle est presbyte, ça veut pas dire la même chose.
Oh non. Mieux sur Pornhub, le terme le plus recherché chez désormais Gilets jaunes.
Oui, parce qu'on aime salir ce qu'on voit au quotidien. Le X a déformé les rapports humains. Quand on revient de la boulangerie et que la dame nous a juste dit « j'ai pas de monnaie, non, je fais pas le sans contact », chez soi, on tape boulangère et on voit ce que pourrait être cette dame si elle prenait le temps de constater que derrière elle, il y a 30 baguettes tradition toutes chaudes et des clients qui à 50% sont des satires. Parce que tout ce qui marche est repris par le X. C'est pour ça qu'il n'y a pas de version X des Patriotes de Florian Philippot. Mais sur Pornhub, il y a quand même des vidéos intitulées « Les bus Macron ». Gros succès les bus Macron. Ce sont ces bus qui permettent de faire un Toulouse-Brest à 2 € et en 16 jours. Et donc, version porno. Il y a un proverbe qui dit « If something exists, there is a porn of it ». Si quelque chose existe, il y a sa version X. Je suis désolé, mais à chaque sondage radio, on est là à dire « record pour la bande originale, on a battu Chant de France et Radio Pomme, la station du Calvados ». Résultat, il n'y a pas une vidéo porno de nous, dans laquelle Steven Bollocks incarnerait Daniel Morin, qui d'un coup craquerait sa doudoune sans manche, là on réaliserait qu'il n'y a rien en dessous, avant de prendre une par une chacune des personnes présentes dans le public, qui enfin trouverait une finalité au fait de payer la redevance. Les gilets jaunes, les bus Macron sont détournés par l'UX, mais aussi les films et les séries. Il y a une version porno de Ma sorcière bien-aimée. Hein, dedans, on bouge très peu le nez et énormément tout le reste. Il y a une version X du Parrain, le chef-d'œuvre du 7e art. On voit un vieux mafieux qui dit à un jeune « embrasse ma bague ». L'autre regarde la main du vieux et dit « mais elle est où ?» Le mafieux répond « à toi de chercher ». Les James Bond, pareil. Il y a quand même un film X qui s'appelle « Golden Ass » et une version X de Psychose. Hein, en fait, ils ont juste gardé la scène de la douche. Norman Bates arrive avec une perruque, dit à la jeune femme qui se nettoie « ça sert à rien de se laver, regarde ma mère, 10 piges qu'elle est morte, ben un coup de plume au Swiffer tous les 3 mois, elle est nickel ». Il pose son couteau dans le porte-savon, ils font l'amour accroché au rideau de douche. Tout élément marquant à sa version X. L'affaire DSK en a une. Certes, la base était déjà X. Ben oui, donc la parodie, ça aurait été de filmer un sosie de DSK à l'hôtel. Une femme de chambre vient, lui dit « vous avez besoin de quelque chose ?» lui répond « non merci, au revoir ». Donc pourquoi pas les gilets jaunes ? Il y a bien une version X de Castaner qui a accédé au ministère de l'Intérieur. Elle est passée aux 20h. On voit Castaner qui dit du bien de Macron. Et encore, et encore, et encore, et encore. Et à la fin, il a le job. Niveau symbolique, ça vaut 60 ans de porno. Après, ne confondez pas fiction et réalité. Dans la vie, si vous vous arrêtez à un rond-point tenu par des gilets jaunes, personne ne va vous dire « chérie, on va la lever, ta barrière de péage ». Le X transforme tout.
Merci, Tanguy Passé. La bande originale, Nagui, sur France Inter. À propos de films de genre, Romain Gavras, vous n'êtes jamais posé la question de faire un porno ?
C'est dur, je pense, de faire un porno.
C'est dur, on fait dans la vanne tout de suite, d'accord,
non.
Okay.
Ah non, non, c'était même pas une
vanne. Ah bah, pardon.
Je pense que c'est dur de pas faire un porno qui est pas vulgos, en fait. Un porno, à un but, c'est-à-dire ouais. C'est que les gens
fantasment
voilà mais et du coup de faire des scènes à caractère sexuel ça peut être bien mais faut trouver un angle où ça n'a pas été déjà vu 20 000 fois.
L'angle en fait. Est important effectivement.
Dans les codes du film de gangster, il y a la musique, le soleil, les filles en maillot de bain, ça aussi ça fait partie de l'écriture par laquelle il faut passer.
Un petit peu, là en fait, donc on en parlait tout à l'heure, on a tourné à Benidorm, qui est une ville en Espagne, qui est un peu Miami en nul. non mais c'est un peu ça, c'est vrai. Et c'est moi j'étais allé quand j'avais 19 ans et je m'étais dit mais il faut absolument faire un film là-bas parce que c'est que il y a même pas d'espagnols en fait, c'est que des anglais.
Qui viennent boire dans des grandes rues allumées au néon, quoi.
Ouais, voilà. Et vraiment, et du coup,
ils viennent pour se friter, les mecs.
Ah, ils viennent pour se friter, ouais, on en a
des Russes aussi, beaucoup. Hein.
Comment ?
Des Russes aussi, beaucoup.
Mais surtout des Anglais, quand même. Et on se dit que si, ça a été un empire où ils ont quand même bien foutu la merde dans le monde entier pendant des années pour finir à Benidorm avec une bière à la main tout rouge au soleil.
C'est un côté fin du monde, quoi.
Il y a un côté fin du monde, ouais. Fin d'un empire.
Mais il y a cette caméra qui est extrêmement... comment dirais-je, presque mathématiquement posé pour se mettre à la place du regard du personnage joué par Karim Leclou qui voit cette formidable belle, son fantasme, cette fille se mettre en maillot, plonger dans la piscine. Ça, vous l'avez fait comme une pub, quoi, comme un clip.
Ouais, l'idée c'est ce qu'on apprend.
C'est Oulaya Amra.
C'est Oulaya Amra, ouais.
Qui sont fantasmes, qui vient se plonger dans la piscine en maillot.
Exactement. Et l'idée, c'était d'avoir des moments de respiration dans le film qui se rapprochent à des moments de clips ou à des moments, des parenthèses musicales. Et ça en fait partie. C'est-à-dire que son regard, parce qu'on est vraiment collé au regard de Karim pendant tout le film, fait partie d'une parenthèse musicale comme ça.
Alors, je rassure les filles, il y a aussi la même scène de Karim Leclou, aussi en maillot de bain, qui se laisse tomber dans une piscine.
Si. Qui se laisse tomber, voilà, qui ne plonge pas.
Laissez une part de fantasme, Karim.
Ouais, il y en a une, pour la ménagère de plus de 50 ans, je pense qu'il y a peut-être moyen.
De plus de 50 ans.
Ouais, de plus. À partir de 55, je reçois des messages sur Facebook, mais c'est que des meufs de 55 ans, je comprends pas.
Vous faites du mal, vous faites du mal.
Non, pas forcément.
Voici Frédéric Siris.
Merci.
C'est un dépôt de bilan.
Oui, c'est un dépôt de bilan. C'est un dépôt de bilan qui parle surtout d'un chiffre. Parce que le chiffre de la semaine, c'est bien évidemment 2,5. 2,5, c'est l'écart qui sépare désormais Nagui de Michel Simès dans le classement des animateurs préférés des Français.
C'est vrai, j'ai vu ça.
Un écart qui se creuse et que d'aucuns jugent irrattrapable. Alors ici, on connaît bien Michel Simès, car il a travaillé ici, avant que l'amour de l'argent et des personnes en fin de vie ne le conduisent sur RTL. Et nous pouvons dire avec une certaine assurance, vous ne me contredirez pas là-dessus, Nagui, qu'avec Michel, on est plutôt sur de l'être humain abject, à l'humour aussi douteux que ses principes. Une sorte de Patrick Balkany à qui on aurait donné un stéthoscope. Donc la seule question qui vaille, c'est être derrière un individu pareil, qu'est-ce que ça dit de vous, Nagui ?
Que je suis en retard et que je dois faire des progrès.
Alors sinon, dans le reste de l'actualité, cette semaine, le gouvernement d'Emmanuel Macron a enfin réussi à se remettre en question, à tirer parti de ses erreurs, à prendre l'autoroute du changement, ni plus ni moins. Voici en exclusivité les conclusions de cette introspection dans la bouche du député Gilles Legendre.
C'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d'achat.
Eh ben voilà, l'origine du divorce d'avec le peuple français, désormais, on le sait, c'est un excès d'intelligence et de subtilité. D'ailleurs, on a encore en tête ces nombreux slogans de gilets jaunes durant les manifestations. Le problème, c'est pas nos salaires, mais votre vocabulaire. On n'est pas content, faut nous parler lentement. Hanouna, président, prenez-nous pour des cons. Mais voilà, le gouvernement a été trop intelligent, trop subtil. Gilles Legendre, dans un entretien d'embauche, tu lui demandes de citer un de ses défauts. Ben, il fait comme tout le monde, il dit perfectionniste, définitivement perfectionniste. Ça reste une super excuse qui va avec tout. La prochaine fois qu'Alexis me dira, avec l'énergie qui le caractérise, celle d'un koala sous Xanax, tu sais, Frédéric, il y a tellement de minutes de silence dans tes papiers, on dirait que Daesh a commis un attentat la veille. Je lui répondrai, mon erreur dans mon approche du rire, Alexis, c'est peut-être d'être allé trop loin dans l'intelligence, trop loin dans la subtilité.
C'est ça.
Ce à quoi Alexis me répondra, écoute Frédéric, je ne peux que te donner raison, regarde Daniel. C'est une leçon qu'il semble avoir totalement maîtrisée. D'ailleurs, Nagui, cette relégation à la deuxième place du classement des animateurs préférés des Français,
oui.
Est-ce qu'au fond,
oui.
Ça ne serait pas dû à un excès d'intelligence et de subtilité dans vos émissions ?
On ne me comprend pas, je suis trop intelligent.
Ouais, j'en étais sûr. Ouais. Mais cette communication, finalement, c'est une manière très optimiste d'aborder un problème. Par exemple, quand mon épouse, dans notre intimité, me reproche parfois la brièveté de nos coïts, je lui réponds, mon erreur, c'est peut-être d'avoir voulu trop optimiser nos rapports pour te dégager plus de temps libre. Et c'était pour toi, finalement. Et d'ailleurs, cette semaine, le gouvernement nous a donné une nouvelle fois la preuve de sa supériorité intellectuelle avec Benjamin Griveaux, qui nous a expliqué de manière extrêmement subtile la fameuse annulation de l'annulation de certaines réformes liées aux Gilets jaunes.
Une annulation d'annulation, c'est donc moins plus moins, ça fait plus. Et donc, c'eût été une mauvaise décision. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne la prenons pas.
Et ben voilà,
festival.
Une annulation et une aliénation, ouais. c'est donc moins, plus moins, ça fait plus, et donc c'eût été une mauvaise décision.
C'est mathématique.
Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne la prenons pas. C'est vraiment dans ces moments-là que je mesure mes carences intellectuelles, parce que quand le gouvernement veut parler à ma tête, je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression qu'il me parle à mon cul. En fait, c'est bizarre. Sinon, cette semaine, toujours dans le souci de décrypter au mieux les raisons de la colère des Gilets jaunes et surtout d'y mettre fin, à France Inter, on a fait venir des experts à même de nous expliquer ce que c'est de vivre dans la précarité. Bernard Tapie. Ah, c'est vrai, Bernard Tapie, quand on pense fin de mois difficile, contrat précaire, c'est pas forcément le premier nom qui vient à l'esprit, mais c'est aussi ça qui fait la différence sur notre antenne. On va en dehors des sentiers battus, on pense hors cadre, on est un peu les punks de l'information. Bernard Tapie, à qui Léa Salamé a demandé ce qu'il pensait de la suppression de l'ISF.
Vous dire... Mais l'ISF, ça a été une erreur ?
Sûrement pas, et je vais vous dire pourquoi.
Alors ça, c'est étonnant. Bernard Tapie est pour la suppression de l'ISF. Je l'ai pas vu venir. La semaine prochaine, on va demander à Benoît Magimel ce qu'il pense de la suppression des limitations de vitesse. Marc Dutroux, que pensez-vous de la suppression des grilles devant les écoles maternelles?
Globalement, je suis pour. Voilà, voilà.
Enfin, l'autre information primordiale de cette semaine, c'est bien évidemment le retour de Nicolas Sarkozy en tant que conseiller de l'ombre d'Emmanuel Macron. Hein, il l'a dit. Il a dit. Je ne reviens pas par choix, mais par devoir. Voilà, je peux pas laisser la France dans cet état. Et moi, j'écoutais ça, j'étais là, je dis si, laisse-la dans cet état. Faut qu'on tourne la page. J'ai connu des zones plus faciles à soigner que Nicolas Sarkozy. Les anciens présidents, c'est comme le Beaujolais nouveau, c'est-à-dire que tu sais que c'est pas bon, que la dernière fois ça t'a laissé dans un état mais lamentable, mais pourtant ça revient tous les ans. En même temps, François Hollande est de retour, Nicolas Sarkozy est de retour, donc gardez espoir, Nagui, face à Michel Tsemes, vous aussi, vous pouvez espérer.
Merci pour la comparaison.
France Inter, la bande originale.
Et Fred Sigrist, qu'on retrouve ce soir à 20h à Saint-Ouen, l'Aumône, pour son spectacle Tout le monde croit que je suis un mec bien.
Karim Leclou et Romain Gavras sont nos invités. On parle de la sortie en DVD de ce film Le monde est à toi. Il y a beaucoup de références dans votre univers, références cinématographiques aussi. Est-ce que la bande dessinée en fait partie? Et notamment l'idée de mettre dans votre cadre des choses qui se passent en arrière-plan ou faire presque des vannes ou un escape game à l'intérieur du film. Ouais. Il faut aller trouver quelque chose.
Alors il y en a plein partout. C'est-à-dire que encore une fois, c'est bien un DVD parce qu'on peut regarder et il y a des triangles et de l'iconographie d'œil partout dans le film.
D'Illuminati.
Partout, ouais. En fait, il y a plein de couches dans le film où on s'est vraiment pris la tête à mettre des trucs cachés partout et le film en est truffé.
Qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir, Karim Leclou, du tournage de ce film? On est à toi.
Benidorm. je ne connaissais pas cette ville anglaise en Espagne. Voilà.
C'est comme il l'a décrite. Hein. Ah c'est vraiment ça.
Il est gentil encore dans sa description. C'est vraiment la fin du monde en Europe.
Et alors comment tourner avec autant d'alcooliques autour de vous, des scènes de bagarre avec des alcooliques?
Disons que ça ne me gênait pas, moi en tout cas. je crois que je fais partie des 99%, donc en même temps, voilà. C'était pas gênant, bien au contraire.
Et de jouer dans un film de gangster, ça renvoie à des codes de quand on était môme, d'avoir un pistolet, d'entendre des détonations, de faire des poursuites, des cascades.
À fond, là, franchement, c'était quand j'ai lu le scénario, je trouvais l'objet hyper amusant et du coup, en plus d'y rajouter ces thématiques, parce que je trouve qu'il y a quand même, c'est un film qui dépasse justement le film de gangster. Et pour moi, c'est surtout l'histoire d'un gars qui, dans un monde de fous, veut avoir une vie normale. Et je trouvais que
c'est aussi l'histoire d'un fils qui veut coupe le cordon,
s'émanciper de sa mère,
avec sa rhum, c'est ça.
Ouais, et du coup, le traiter de façon marrante et justement pas terre à terre, je trouvais ça assez génial parce que c'est un objet assez rare. En tout cas, moi, j'ai pas lu beaucoup de scénarios de mecs qui veulent ouvrir une entreprise de Mr. Freeze pour échapper à leur mère. Enfin, voilà.
Est-ce que dans les scénarios que vous recevez, justement, quelque chose vous a fait tilter, vous avez signé, vous avez des projets, il va se passer quoi en 2019?
Moi, déjà, je vais essayer de terminer 2018.
Il n'y a plus qu'une semaine à tenir.
Je ne projette pas trop de là.
Non, quand même.
Non, réellement.
Vous êtes dans un monde, tous les deux, en réalisant, en écrivant, en interprétant, où les projets se font sur un an, deux ans, voire plus. Donc, il faut avoir une visibilité, ne serait-ce savoir si vous êtes libre pour aller au théâtre, savoir si vous êtes coincé pendant X semaines sur un tournage, si vous pouvez faire des guests ou pas.
C'est pas faux. Mais j'aime bien me projeter dans l'immédiat.
En fait, vous voulez rien dire?
Non, je dis...
Vous savez pas ce que vous faites dans les trois prochains mois?
Je sais pas, je sais même pas ce que je fais dans deux heures, tu vois.
Alors, et vous, l'écriture d'un...
Alors, moi, je suis en écriture pour un prochain film, et aussi pour des projets plus petits d'installation de vidéos, c'est-à-dire, enfin, plus petit dans la forme, parce que moi, j'aime bien faire un peu de tout.
Installation de vidéo, c'est une œuvre d'art?
Ça conjugue un peu tout, c'est-à-dire que ce soit la vidéo, la musique, voilà, donc je retournerai un moment au clip, j'aime bien tous les formats, en fait.
Est-ce que maintenant, la technologie vous permet de réaliser toutes les idées? Oui, non, mais parce qu'il y a eu des moments, je pense, où les réalisateurs étaient coincés parce qu'on peut pas avoir, il n'y avait pas de drone, parce que les caméras n'étaient pas aussi légères, les angles, la lumière ne permettait pas de faire les mêmes scènes de nuit, de jour et autres, et que maintenant la technologie permet beaucoup plus de choses.
Bien sûr, dans l'écriture. Bah là, dans ce film-là, au final, n'a pas coûté très cher, même s'il paraît
super
comme
production.
Absolument. Ouais. Mais par l'avènement de certains trucs technologiques, comme les drones, comme le fait que les caméras soient hypersensibles à la lumière, donc on peut tourner de nuit sans vraiment de lumière. Après, moi, j'aime bien tourner en film encore.
Et plus petite, elles peuvent être dans une bagnole alors qu'avant,
Exactement. Mais de tout temps, le cinéma a évolué avec l'évolution technologique. La nouvelle vague est arrivée parce que d'un coup, on pouvait sortir les caméras du studio. On n'avait plus besoin d'énormes lumières et qu'on pouvait tourner dans la rue. Du coup, voilà. Même si moi, j'aime bien tourner en film encore, ce film-là a été tourné en vidéo.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà désolé pour la BNP, Société Générale, Crédit Agricole et toutes les banques qui malheureusement ne pourront pas bénéficier pour leur pub du talent de Romain Gavras. Ah, les gauchistes. En revanche, les amis, Nagui contre un très 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 gros chèque qui déboule avec toutes les équipes de Taratata. Aucune moralité.
Mais Taratata est parrainé par une banque.
Ah bah voilà, tout finit par se retrouver. Désolé pour Karim Leclou, j'ai eu Didier Deschamps au téléphone à la pause. Et grâce à ses nouvelles dents, j'ai pu le comprendre, le message était clair.
Ça va pas, non ?
Il préfère... Si, il a des nouvelles dents. Il préfère garder Mbappé. En revanche, il a besoin d'un hibou. Promis, il vous appelle. Et désolé pour tous les réalisateurs de films porno qui voulaient faire une version originale de la bande originale. Franchement, les gars, non, là, pour certaines scènes, faudrait trop de doublure. Nagui, voilà, il tient la route 90 minutes, mais juste pour poser des questions... Physiquement, il est au bout du rouleau, le pauvre. Mais là, les vacances arrivent, il va en Suisse, il va faire le plein de vitamines, de fromage, il va se faire changer le sang. Revenez en 2019, vous allez voir, ça va se faire, ce porno.
La semaine prochaine, nous aurons des rediffusions des émissions de Françoise Hardy, lundi, mardi, Alain Souchon et Laurent Voulzy, mercredi, Julien Clerc, jeudi, Jane Birkin, vendredi, Alain Chamfort. Vous l'avez compris, c'est une semaine en musique pour finir l'année. Et puis, la pratiquement première semaine de l'année 2019, Leïla Kadroboudedi et Daniel Morin recevront Jonathan Cohen et Jérémy Elkaïm lundi pour le film Première Vacances. Mardi 1er janvier, vous recevrez Marie-Agnès Gillot pour Podane au Théâtre Marigny. Philippe Guéluc sera votre invité le mercredi 2 janvier. Le 3 janvier, Barbara Hendricks pour son nouvel album. Et le 4 janvier, Vincent Moscato pour parler d'alcool et humour. ça s'appelle complètement Jojo. Merci beaucoup Karim Leclou, Romain Gavras, bravo. Pour ce monde est à toi, sorti en DVD. Passez de bonnes fêtes, portez-vous bien et à l'année prochaine. Merci Philippe Bertrand.
Merci Nagui, merci l'équipe et donc bonnes fêtes à vous, à très vite.